question dont la réponse pourra changer votre vie. Est-ce qu'on peut gagner notre ciel en pratiquant de bonnes œuvres? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire pour tous ceux qui cherchent la vérité aujourd'hui à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je suis heureuse de vous apprendre que cette émission contient un message important pour tous ceux qui cherchent la vérité, et un message enrichissant pour tous ceux qui l'ont trouvé. Alors voici les questions qu'on va poser au livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'on peut gagner notre ciel en pratiquant de bonnes œuvres? Une fois sauvé, est-ce qu'on a de bonnes œuvres à accomplir? Y a-t-il une différence entre le travail et les œuvres? Une église doit-elle examiner rigoureusement la vie des gens qui veulent se joindre à elle? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire quand il a reproché à l'église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire quand il réalise qu'il a perdu son premier amour? Qu'est-ce qui arrive à une église quand elle se détourne des enseignements de la Bible? Demeurez à l'écoute, Dieu a une réponse claire pour chacune de nos questions. Il va nous les donner dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur, on sait qu'on va avoir des réponses claires. On sait que tu aimes nous instruire, que tu aimes te faire connaître à nous. Alors dispose nos cœurs et aide-nous à bien saisir ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui, pour ta gloire. Amen. À toi Régent.
Merci beaucoup Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que les lettres adressées aux sept églises peuvent également s'adresser aux chrétiens en tant que membres d'une assemblée ou en tant qu'individu. L'apôtre Jean transmet aux sept églises l'évaluation que le Seigneur Jésus a faite d'elle. Il félicite certaines de ces églises pour leur œuvre, mais il lance un sérieux avertissement à d'autres. Nous avons également fait connaissance avec la ville d'Éphèse, telle que se présentait au premier siècle après Jésus-Christ. Les œuvres et le travail. Par la bouche de l'apôtre Jean, notre Seigneur Jésus-Christ adresse sept félicitations à l'église d'Éphèse. Chers amis, débutons notre lecture. Apocalypse, chapitre 2, versets 2 et 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Premièrement, je connais tes œuvres. Nous devons comprendre et nous rappeler que le Seigneur Jésus parle à des croyants. Il ne demande jamais au monde perdu d'accomplir de bonnes œuvres pour lui. Ce ne sont pas les bonnes actions du monde qui le réconcilient avec Dieu, mais le sang de Jésus-Christ répandu sur la croix pour les péchés de l'humanité. À titre de référence, mentionnons seulement les versets suivants. Dans Tite, chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul écrit « Il nous a sauvés » non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et dans Romains chapitre 4, verset 5, il poursuit. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Jésus-Christ parle à son peuple. Il s'adresse à ceux et à celles qui l'ont reçu par la foi comme leur Seigneur et Sauveur. Toutefois, après avoir été sauvés, Dieu s'attend à de bonnes œuvres de leur part. Et l'apôtre Paul a beaucoup à dire à ce sujet, entre autres dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les membres de l'église d'Éphèse avaient reçu cette épître quelques années auparavant. Ils en connaissaient certainement le contenu. Ils savaient qu'ils avaient été créés pour de bonnes œuvres, préparées d'avance par Dieu pour qu'ils les accomplissent. Ils avaient bien compris cela, et Jésus les en félicite. Lisons deux autres versets. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. En d'autres mots, la foi vient en premier, mais si elle n'est pas suivie par de bonnes œuvres, ce ne sont que des paroles en l'air. Le Seigneur Jésus répète à l'église d'Éphèse ce qu'ils ont déjà appris dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18. « Soyez remplis de l'Esprit. » Il s'agit bien sûr du Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de chaque croyant. L'apôtre Paul poursuit en leur enseignant les œuvres qu'ils peuvent accomplir en tant que chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. La leçon a été bien apprise et Jésus le reconnaît. Deuxièmement, « Je connais ton travail. » Quelle est la différence entre les œuvres et le travail? Suivant le principe selon lequel la Bible s'interprète par elle-même, nous pouvons chercher où le même mot du texte original est employé dans le même contexte. Dans le cas présent, le mot traduit ici par « travail » est « koros ». Il implique l'idée d'un dur labeur. Le même mot est parfois employé pour l'action de se frapper la poitrine de chagrin ou une inquiétude. On ne trouve pas le même mot dans notre passage, mais nous avons son verbe dérivé, « koriao », lorsque Jésus a dit à son Église, « Tu as souffert à cause de mon nom ». Nous avons donc l'idée d'un travail dur, lassant et fatigant, un fardeau lourd à porter. Une Église courageuse. Troisièmement, « Je connais ta persévérance ». Malgré le rude travail, les Éphésiens ne se sont pas laissés décourager. Quatrièmement, « Je sais que tu ne peux supporter les méchants ». Ils ne pouvaient pas supporter la présence du mal au milieu d'eux. Cinquièmement, « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » L'Église examinait attentivement tout homme venant à Éphèse en prétendant être un apôtre. Une des conditions pour être reconnu comme apôtre était d'avoir vu Jésus-Christ. On demandait donc à la personne si elle avait vu le Christ ressuscité, et on pouvait ainsi vérifier si elle était vraiment un apôtre. Si elle ne l'était pas, on lui demandait de quitter la ville. Le Seigneur Jésus félicitait les Éphésiens de ne pas avoir craint d'examiner rigoureusement les hommes. Personnellement, je crois que nos églises aujourd'hui devraient maintenir cette pratique. Nous en avons besoin plus que jamais auparavant. Sixièmement, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Comme nous l'avons vu plus haut, la persévérance est liée à l'idée de supporter un dur et fatigant travail. À cause du nom de Jésus-Christ, les membres de l'Église portaient leur croix. Ils prêchaient l'Évangile. Ils croyaient à la naissance virginale de Jésus. Ils croyaient qu'il était Dieu. Ils croyaient dans sa mort sacrificielle et sa résurrection. Et ils en payaient le prix. La septième et dernière félicitation est celle-ci. « Et que tu ne t'es point lassé. » Nous avons déjà vu que les Éphésiens avaient été soumis à un travail fatigant et lassant. Mais ici, Jésus leur dit qu'ils ne se sont pas lassés. Ne devrait-on pas y voir une contradiction? Pas vraiment. En fait, il s'agit d'un des grands paradoxes de la vie chrétienne. Pour l'illustrer, j'aimerais employer un extrait de la biographie du grand évangéliste Dwight L. Moody. Un jour, où il était revenu complètement épuisé d'une campagne d'évangélisation, sa famille l'a supplié de ne pas s'impliquer dans la prochaine campagne. Il a répondu, « Je me fatigue en travaillant, mais je ne me fatigue pas de travailler. » Il y a un monde de différence entre les deux. Vous pouvez fort bien vous fatiguer en travaillant pour le Seigneur, mais si vous vous fatiguez de travailler pour le Seigneur, c'est dommage. Ces sept félicitations adressées par Jésus à l'Église d'Éphèse s'appliquent également à la période d'histoire de l'Église, à partir de la Pentecôte jusqu'à environ l'année 100 après Jésus-Christ. L'Église d'Éphèse représente cette période, l'amour perdu. Toutefois, Jésus se voit obligé d'adresser un reproche à cette Église. Lisons Apocalypse, chapitre 2, le verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » En d'autres mots, l'Église avait perdu cette intense et enthousiaste dévotion envers la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous est difficile de ressentir et d'identifier l'élan de ferveur qui avait caractérisé cette Église à ses débuts sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Ce dernier avait conduit les croyants d'Éphèse dans une relation intime et personnelle avec leur Seigneur. Il les avait menés à un point où toute l'assemblée pouvait s'écrier d'un seul cœur « Nous t'aimons, Seigneur Jésus ». Cela peut nous sembler banal et même un peu mièvre aujourd'hui. Pourtant, l'amour de ses enfants est une question très importante pour Dieu. Cet abandon de soi, un peu fou du premier amour, manquait beaucoup à Jésus. L'Église d'Éphèse n'avait pas encore complètement renoncé à son amour pour le Seigneur, mais elle s'éloignait progressivement de lui. À notre époque de froideur, de scepticisme, de cynisme, de dérision et d'indifférence. Il nous est difficile de comprendre cela. Le monde s'est maintenant introduit dans nos églises. Il nous est désormais presque impossible de concevoir la dévotion intense et enthousiaste de l'Église d'Éphèse envers la personne de Jésus-Christ. Un groupe animé d'une telle ferveur serait aujourd'hui traité de fanatique. L'Église du premier siècle ne s'est pas égarée dans les erreurs de doctrine, mais dans sa relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Éphèse était une grande ville et elle offrait beaucoup de divertissements qui commençaient à éloigner les croyants de leur premier amour pour Jésus. Pourtant, nous parlons ici d'une Église tellement consacrée à l'évangélisation que, dans une région comptant environ 25 millions de personnes, même les empereurs et la haute noblesse du temps avaient eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Je doute qu'on ait assisté à une telle expression de la puissance de l'Esprit de Dieu depuis cette époque. L'importance de la relation personnelle. Il nous arrive parfois de rencontrer ou de lire la biographie d'une personne ayant une relation personnelle rapprochée avec le Seigneur Jésus-Christ. David Brainard, le missionnaire des Amérindiens, était un tel homme. Il souffrait de ce que nous appelons aujourd'hui la tuberculose. Il se rendait chez les tribus indiennes à dos de cheval. Parfois, il était pris de convulsions et commençait à tousser du sang. Il sombrait alors dans les consciences et tombait de son cheval. Il restait étendu dans la neige et son cheval avait été dressé pour rester sur place. Quand il reprenait conscience, il grimpait de nouveau sur son cheval. Auprès d'immenses efforts, il reprenait son chemin afin de prêcher l'Évangile aux Indiens. Il lui arrivait de s'écrier « Seigneur Jésus, je t'ai laissé tomber, mais tu sais que je t'aime. » Il avait cette relation rapprochée avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette relation personnelle avec notre Sauveur est essentielle, aujourd'hui autant qu'avant. Nous accordons parfois tellement d'importance aux méthodes et aux programmes. Trop souvent, nous formons nos jeunes chrétiens dans un petit système légaliste qui leur donne certaines règles à suivre et certaines directives psychologiques censées les aider à régler tous leurs problèmes. On essaie de leur enseigner à bien s'entendre avec eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours facile avec leurs prochains et avec les membres de leur famille. Toutes ces choses ont leur importance, bien sûr. Et beaucoup de gens pensent que s'ils suivent certaines règles, ils obtiendront la clé de la réussite dans leur vie chrétienne. Mais la question essentielle et incontournable à se demander est de savoir, est-ce que vous aimez Jésus? Peu importe votre système de pensée ou de croyance, votre dénomination, vos programmes ou vos règlements, tout cela ne sert à rien si vous n'aimez pas Jésus. Même si certains systèmes sont meilleurs que d'autres, presque tous les systèmes fonctionneront d'une manière satisfaisante si vous aimez Jésus-Christ. Une relation sincère et intime avec Jésus-Christ vous donnera la joie dans toutes vos autres relations et dans votre service chrétien. Un amour qui ne compte pas les heures. Écoutez cette histoire vécue de deux jeunes filles qui travaillaient dans une manufacture. Elles étaient de bonnes amies, mais quand l'une d'elles a quitté son emploi, elles se sont un peu perdues de vue. Un jour, elles se sont revues et celle qui avait continué de travailler à la manufacture a demandé à son amie où elle travaillait. L'autre a répondu « Oh, je ne travaille plus, je me suis marié ». Lorsque cette fille travaillait à la manufacture, elle ne cessait de regarder l'horloge, et à 17h, elle avait déjà son manteau sur le dos, prête à partir. Elle travaillait dur, et elle n'aimait pas ce boulot. Maintenant, elle dit qu'elle est mariée et qu'elle ne travaille plus. Pourtant, si vous pouviez la suivre pendant la journée, vous ne penseriez jamais qu'elle ne travaille plus. Elle se lève plus tôt qu'avant pour préparer le déjeuner de sa famille. Elle aide les enfants à faire leur toilette et à s'habiller. Elle embrasse son mari lorsqu'il sort pour aller travailler. Pendant la journée, elle fait le ménage à la maison et les commissions à l'extérieur. Elle prend soin de ses deux petits, qu'elle prend pour des anges, parce qu'ils sont ses enfants. Et quand 17h sonne à l'horloge, elle n'est plus pressée de mettre son manteau pour s'en aller. Elle prépare le souper. Elle accueille son mari quand il revient du travail. La journée du mari est terminée, mais pas celle de la femme. Elle sert le souper et nourrit les enfants. Elle continue ensuite jusqu'au temps où les enfants doivent être mis au lit. Quand elle se met elle-même au lit, elle est parfois fatiguée, mais elle dit qu'elle ne travaille plus. Parce qu'elle aime son travail. J'ai pris l'exemple d'une ménagère au foyer, mais il en existe beaucoup d'autres. Prenons un autre exemple auquel les hommes pourront mieux s'identifier. Aimez-vous regarder un sport professionnel à la télé? Peu importe s'il s'agit de football, de hockey ou de baseball. On entend souvent dire qu'aujourd'hui, les joueurs sont trop bien payés et qu'ils ne jouent plus pour l'amour du sport. L'important est d'aimer son travail. J'appartiens à une classe privilégiée de travailleurs en amour avec leur travail. Je travaille souvent jour et soir, comme annonceur radio et comme pasteur, mais je ne souhaiterais pas échanger ma vie pour rien d'autre. Et je suis entouré de gens qui n'ont jamais travaillé, mais qui remercient continuellement le Seigneur de les utiliser ainsi. Si votre vie familiale et votre vie chrétienne sont devenues des fardeaux, vous devriez peut-être faire le point sur votre relation avec Jésus-Christ. Quand cela sera réglé, le reste s'arrangera aussi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus reproche aux croyants de l'église d'Éphèse d'avoir abandonné leur premier amour pour lui. Que peuvent-ils faire pour remédier à la situation? Je me souviens. Retournons à notre lecture de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. La devise de notre province de Québec est « Je me souviens ». Et ici, Jésus-Christ demande à son église d'Éphèse de se souvenir. La mémoire est une chose merveilleuse. Quelqu'un a déjà dit que Dieu nous avait donné une mémoire afin que nous puissions avoir des roses en décembre. Au moment où ces lignes sont écrites, nous sommes en décembre et une forte tempête de neige s'abat sur toute la région. Je ne verrai certainement pas de roses en sortant dehors. Quelqu'un d'autre a dit que la mémoire est un luxe que seule une bonne personne peut se permettre. Or, si Jésus vous a fait la faveur de se révéler à vous, vous rappelez-vous du jour de votre conversion? Quel souvenir conservez-vous de votre enthousiasme lorsque vous avez vraiment découvert, au plus profond de votre être, à quel point il vous aimait? Et depuis cet heureux temps, êtes-vous devenu froid et indifférent envers lui? Vous êtes-vous éloigné de lui? En ce cas, souvenez-vous de votre premier amour pour lui. Car ces jours bénis peuvent revenir dans votre vie. Et le texte précise, en disant « Repens-toi ». Croyez-moi, les chrétiens ont besoin de se repentir. Nous avons besoin de briser cette coquille d'autosuffisance, de cette croûte d'arrogance, de ce bouclier de sophistication et de ce vernis de vanité. Débarrassons-nous de ce masque de fausse piété et arrêtons-nous de perdre notre temps à polir notre auréole comme si nous étions déjà au ciel. Repentons-nous. La repentance signifie faire demi-tour et de retourner à notre Seigneur. Et dans notre passage, ce message s'adresse exclusivement à des chrétiens. Comment osons-nous dire à un non-croyant de se repentir? Ce dernier doit se tourner vers le Seigneur Jésus pour être sauvé. Et quand cela sera fait, il se détournera de son péché et il fera ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 et 10. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mais l'Église, elle, a besoin de repentance. Malheureusement, elle n'aime pas entendre ce message aujourd'hui. Or, ce commandement vient d'en haut. Rappelle-toi, repens-toi et retourne vers le Seigneur Jésus. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Oui, Jésus est même prêt à enlever le chandelier de sa place s'il ne répand pas assez de lumière. Combien d'églises ferment leurs portes de nos jours? Par le passé, les foules accouraient, mais elles ne viennent plus, parce que la parole de Dieu n'est plus enseignée. Rappelez-vous du souverain sacrificateur dans les cieux très hauts. Il marche parmi les chandeliers avec un éteignoir dans la main. Il n'hésitera pas à tailler les mèches ou même à éteindre les lampes lorsqu'elles refusent de donner sa lumière. Ce qui est vrai pour les individus s'applique également aux églises. Et pratique tes premières œuvres. On se rappelle de la distinction entre œuvre et travail faite au verset 2. En retrouvant son premier amour pour Jésus-Christ, la soumission à sa volonté ne sera plus un travail fatigant et lassant, mais une œuvre accomplie dans la joie. Lisons le verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Nicolaïte est un mot composé. Nikao signifie conquérir et Laos signifie peuple, dont nous tirons le mot laïcité. Il est difficile d'identifier avec précision les Nicolaïtes. Certains pensent qu'il s'agissait d'un ordre sacerdotal qui prenait forme à ce moment et qui tentait de contrôler le peuple. Une autre théorie admet qu'il n'existe aucun moyen d'identifier ce groupe dans les premières églises ou les églises plus récentes. Une troisième explication suggère la présence d'un homme appelé Nicolas d'Antioche qui s'est détourné de la Bible pour former un culte gnostique antinomien. L'antinomisme prêche que la loi morale n'est d'aucune utilité et enseigne entre autres qu'une personne doit vivre dans le péché afin de le connaître. Aujourd'hui, différentes sectes reliées au soi-disant Nouvel Âge enseignent encore les mêmes vieilles erreurs. Ils s'adonnent à la sensualité en prétendant que les péchés de la chair n'affectent en rien la vie de l'esprit. Cette dernière explication est probablement la meilleure. Mais l'Église d'Éphèse méprisait cette hérésie. Un peu plus loin, nous apprendrons que l'Église de Pergame la tolérait. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 2, les versets 7 à 11. À vous tous, je vous souhaite bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Suite à ma première question d'aujourd'hui, tu nous as donné une réponse claire qui est tellement importante pour le peuple québécois. Probablement pour d'autres peuples aussi, mais je connais mieux les gens d'ici que les gens d'ailleurs. Et je sais qu'on a grandi dans une culture qui nous enseignait qu'il fallait croire en Jésus, mais qu'il fallait accomplir aussi beaucoup de bonnes œuvres pour être certain de s'assurer une place au ciel pour l'éternité. Mais après ce bon enseignement, mes amis, je crois qu'on peut tous être unanimes si on accepte l'enseignement de la Bible comme étant entièrement l'enseignement que Dieu a inspiré lui-même aux écrivains de la Bible, c'est-à-dire aux prophètes et aux apôtres. Et ceci nous a amené une fois de plus à ces versets que Réjean et moi citons bien souvent au cours de nos émissions. Et je ne veux pas vous casser les oreilles, mais j'aimerais vous répéter ces versets en m'adressant surtout à ceux qui se démènent, ceux qui travaillent si fort dans le but de gagner la faveur de Dieu pour avoir le paradis à la fin de leur jour. Alors voici ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9. Je vais lire ceci lentement et je demande à Dieu qu'il vous aide à bien comprendre, parce que ça pourrait vous aider à trouver le chemin qui mène au ciel, aujourd'hui même. Alors Paul nous dit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors c'est par la grâce qu'on est sauvés, mes amis. Une grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Alors ici, je peux vous dire que personne ne mérite d'être sauvé, puisque la parole de Dieu nous dit qu'on a tous péché et qu'on est privé de la présence glorieuse de Dieu à cause du péché. Alors, mon ami, l'apôtre Paul ainsi que Silas ont dit ceci à un homme un jour. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est simple, n'est-ce pas? Pas de bonnes œuvres, seulement la foi au Seigneur Jésus. Et toi, crois-tu en Jésus? Crois-tu que c'est par la foi en lui seul que tu peux obtenir le pardon de tes péchés et par le fait même recevoir un billet gratuit pour le ciel? Je dis bien par la foi en lui seul, puisqu'on vient de dire que ce n'est pas par les œuvres. Alors, mon ami, je ne te suggère pas de cesser tes bonnes œuvres. Je te suggère de placer ta confiance en Jésus seul, en son sacrifice à la croix pour le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, qu'est-ce qui t'empêcherait en ce moment même de te repentir? La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en détourner. Maintenant, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Et c'est ainsi que tu naîtras de nouveau, que tu deviendras un enfant de Dieu. Et après ça, toutes les œuvres que tu feras seront simplement par amour pour ton Dieu, en reconnaissance pour ce merveilleux cadeau qu'il t'a offert, la vie éternelle. Alors pour l'instant, mets tes œuvres de côté. Tourne tes regards vers Jésus. Ses bras sont grands ouverts pour t'accueillir. Il veut te pardonner. Il veut te laver dans son sang, ce sang qu'il a versé à la croix pour toi. Et juste avant de mourir, il a dit, « Tout est accompli. T'as rien à faire, t'as juste à croire en lui et dire, « Seigneur, sauve-moi. » Il va le faire. Et repens-toi. Tourne-toi vers Jésus et demande-lui ce beau cadeau, ce merveilleux cadeau de la vie éternelle.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Réjean.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.